Europe 1. Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
Et pour débuter cette émission, nous accueillons Mathieu sur la libre antenne. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir. D'où nous appelez-vous Mathieu et quel âge avez-vous ?
Alors moi j'ai 40 ans et là je vous appelle d'Espagne, mais sinon je vis à Paris.
D'Espagne, d'accord. Et que faites-vous en Espagne ?
Eh bien en Espagne je suis en tournoi international de para-badminton parce que je suis sportif de haut niveau.
D'accord, très bien. Alors, de quoi voulez-vous me parler ?
Plusieurs sujets. Déjà, le premier, c'est que mercredi, le 24 avril, je sors mon livre.
Oui.
Qui s'appelle Rêve de jeu.
Rêve de jeu aux éditions de la City.
Voilà, c'est ça, City Édition, où je retrace un peu tout mon parcours, à la fois ce rêve de jeux paralympiques et aussi ce rêve de jeu. Il y a un petit jeu de mots dedans, parce que c'est jeu entre parenthèses X, où c'est aussi, on parle de jeu, le rêve d'accomplissement personnel.
D'accord. Dites-moi un peu plus, rêve de jeu, ça promet quoi ? Quelle est la promesse de ce titre ?
En fait, ça parle vraiment de tout mon parcours, c'est-à-dire vraiment c'est un livre un peu introspection, c'est vraiment un témoignage, c'est aussi pour ça que je remercie quand même Frédéric Veil énormément pour cet accomplissement, parce que je n'étais pas destiné à écrire un livre. mais en tout cas, voilà, c'était l'objectif pour moi, c'est voilà, un vrai accomplissement personnel de pouvoir écrire ce livre qui retrace vraiment toute ma vie, à la fois sur cette acceptation du handicap que j'ai eu à l'âge de 17 ans et que j'ai réussi à cacher jusqu'à l'âge de 30 ans. Mmh. Et ensuite, toute cette transformation pour emmener après sur ce rêve qui est les Jeux Paralympiques. Donc voilà, je partage en tout cas tout ce que j'ai pu vivre et connaître et d'essayer de transmettre tout ça un maximum au lecteur pour je pense aussi faire gagner du temps à certaines personnes qui peut-être comme moi ont mis du temps à accepter leur handicap et ou accepter peut-être leur singularité comme je le dis aujourd'hui.
Mmh. Alors ce handicap en fait oui. il arrive comment, expliquez-moi Mathieu.
Cet handicap il arrive à l'âge de 17 ans suite à un cancer, une tumeur cancéreuse exactement,
oui.
Qui est logée dans le bas-ventre et en fait dans cette tumeur passe le nerf crural, donc c'est le nerf qui alimente la cuisse. Et pour enlever cette tumeur, les médecins sont obligés de sectionner ce nerf qui va me laisser une paralysie de la cuisse.
Allô ? Oui ?
Oui, oui.
Ah, d'accord.
Donc, ça va me laisser toute une paralysie de la cuisse droite.
Oui.
Et
ils sont obligés de vous sectionner le nerf parce qu'il est placé donc sur... la tumeur est placée sur ce nerf, je suppose.
En fait, la tumeur était construite tout autour de ce nerf-là. Donc, pour enlever vraiment la tumeur... Il était obligé de sectionner ce nerf. Et moi, du coup, à l'âge de 18 ans qui était sportif, c'était hyper compliqué pour moi de pouvoir continuer à vivre cette vie de sportif. Peut-être pas de haut niveau, mais en tout cas, voilà, j'avais cet espoir à l'époque. Et pour moi, mon médecin, à ce moment-là, j'ai un peu flingué ma vie.
Ah oui.
Mais
oui,
en fait, m'a sauvé la vie. Hein. Mais moi, je le vois vraiment comme un coup dur, dans le sens où je n'ai plus l'usage de cette jambe pour faire du sport comme avant.
Mmh. Et vous visiez une carrière de sportif de haut niveau dans quel type de sport, en fait ? Parce que vous n'avez pas dit, je n'ai pas saisi peut-être.
Alors aujourd'hui, non, c'est vrai, tout à fait. Aujourd'hui, je suis parabadiste, c'est-à-dire que je fais du badminton,
oui,
du parabadminton. Mm-hmm. Mais à l'âge de 17 ans, c'était un tout autre sport. Je faisais du basket, mais
d'accord,
pas du tout à haut niveau.
D'accord. Mais lorsque vous dites qu'il vous flingue votre rêve, vous rêviez d'une belle vie à 17 ans, c'est ça que vous voulez dire en fait
C'est ça, c'est que l'image que moi j'avais du handicap à l'âge de 17 ans, Il n'est pas très joyeux. Je vois le handicap comme quelque chose de très lourd. Je pense au fauteuil, je pense à un handicap mental ou physique, en tout cas très lourd, parce que je n'ai peu de connaissances du handicap, en tout cas. Et la seule connaissance que j'ai, c'est ça. Et quand je suis en situation de handicap, je suis tout de suite dans le déni parce que je ne me retrouve pas dans l'image que je me suis forgée ou que j'ai à l'âge de 17 ans. Et du coup, je suis assez en colère contre ça parce que je ne peux plus faire comme avant, mais je me considère pas non plus en situation de handicap. Donc, je suis un peu entre ces deux états. Et du coup, je vais tout faire, en tout cas, pour réapprendre à marcher, pour le cacher, pour pas que ça se voit, parce que je n'arrive pas à accepter l'handicap comme il est, parce que j'ai encore cette image ancrée qui est le fauteuil roulant, qui est l'handicap lourd.
D'accord. Vous allez remarcher tout de suite ou justement vous passez par une phase où vous êtes en béquille ou en fauteuil roulant?
Alors, en sortant voilà, de l'hôpital, j'ai tout fait pour refuser le fauteuil. Je repars, j'arrive à repartir en béquille. Après, ça va être des longs mois de réapprentissage de la marche. Et je vais lâcher les béquilles au bout de 6 mois où à ce moment-là j'arrive à remarcher sans béquilles. Ça se voit encore un peu et je pense qu'au bout d'un an j'arrive à bien dissimuler les choses. Maintenant, pas à n'importe quel moment, c'est-à-dire qu'aujourd'hui même pour monter des marches l'handicap se voit et là je peux pas non plus le cacher.
Oui. Ben oui, parce que vous avez une jambe qui est totalement inerte en ayant le nerf totalement coupé. Cette jambe ne marche plus. On l'a. Qu'est-ce qu'on a fait à cette jambe pour que vous puissiez marcher, même en boitant?
En fait, la jambe, c'est vraiment une conséquence parce que c'est le quadriceps, donc c'est le muscle de l'avant de la cuisse, les 4 muscles qui sont sur l'avant de la cuisse.
Oui.
Et donc, du coup, je ne peux pas faire de fente ou monter une marche, m'appuyer dessus. Pour tenir sur ma jambe droite, je suis obligé de la garder raide. Donc, de verrouiller mon genou pour pouvoir marcher.
D'accord.
Et donc, de
verrouiller votre
pour
genou.
Pour monter des marches, oui. Je ne peux pas monter des marches si on est obligé de plier et en tout cas s'appuyer sur une jambe fléchie, chose que je ne peux pas faire sur la jambe droite.
Comment, à 17 ans, lorsque on a toujours été... valide. Hein. Comment on vit une telle épreuve, en fait?
Déjà, j'ai passé un an en chimiothérapie à vaincre cette maladie. Et j'en sors fier et grandi de ce combat parce que j'ai réussi à battre quand même le cancer. Maintenant, je n'étais pas du tout prêt à être en situation de handicap.
Oui.
Encore une fois, par l'image qui est encore ancrée, et encore, je trouve qu'aujourd'hui, est très ancrée, et choses que je ne savais pas, en fait. Et c'est des choses que j'apprends bien tard dans la vie, à l'âge de 30 ans. Au moment où, au final, je décide, moi, d'en faire une force, en fait, de cet handicap, d'utiliser, en fait, ma singularité pour accomplir de nouvelles choses dans ma vie. Je me lance le défi de faire les Jeux Paralympiques, donc j'arrive à accepter l'handicap grâce au sport, grâce à ce projet paralympique. Et là, à ce moment-là, je découvre, en m'intéressant au handicap, en m'ouvrant aussi, qu'à 80%, l'handicap est invisible. Et ce chiffre, il va tellement me marquer qu'aujourd'hui, j'en ai fait un deuxième combat. C'est de sensibiliser en entreprise, dans les écoles, pour que en fait, l'image que moi j'avais à l'âge de 17 ans, il faut que tout le monde, en fait, tous les citoyens et que la société change de regard complètement sur le handicap pour qu'on ait aussi cette image de personnes qui sont en situation de handicap mais qui ne se voient pas.
Oui, vous évoquez quelque chose de très important, c'est qu'à 17 ans, vous êtes persuadé que le handicap va être un frein à votre virilité, à votre ascension professionnelle, à votre séduction. Et c'est ce qui va vous amener à lutter, hein, vraiment contre ces cette espèce de racisme que l'on peut voir ici et là contre le handicap.
Complètement, et puis on peut même le souligner encore aujourd'hui, c'est la première source de discrimination encore aujourd'hui en France, c'est le handicap, encore plus en entreprise et à l'embauche. C'est-à-dire qu'on a encore du chemin à faire.
Oui. À partir de quand vous allez vous mettre dans le sport de haut niveau, puisque en fait là vous allez faire les Jeux en fait.
Alors j'espère que je vais faire les Jeux. En tout cas ma qualification.
Ça n'est toujours pas. Ah ça n'est pas encore.
Non non. Je serai le 16 mai. Je suis arrivé 7e à ma qualification aujourd'hui, donc c'est-à-dire 7e mondial. C'est déjà pas mal,
oui.
Mais pour être qualifié, il fallait faire partie des 6 meilleurs mondiaux sûrs. Donc là, j'arrive aux portes de la sélection officielle. Et ensuite, il reste encore 7 places attribuées. Et j'espère être dans. Donc je suis tout de suite pris là-dessus, mais c'est 7 places sur différentes catégories, sur 3 catégories. Donc voilà, j'attends le précieux sésame le 16 mai. Pour savoir si je suis qualifié sur ces Jeux de Paris.
D'accord. Le 6 mai, ah oui, il y a encore donc presque 15 jours.
Ouais.
Ah, 16, le 16 mai.
Le 16 mai, ouais, donc,
ouais, donc trois semaines.
C'est ça, tout à fait.
Et badminton, vous jouez à combien au badminton? Vous jouez tout seul ou vous jouez en double?
Alors, je joue en... Là, pour me qualifier pour les Jeux à Paris, ce serait en simple.
Oui.
Mais sinon, je fais à la fois du double et je fais aussi du mixte. Donc voilà, c'est les trois disciplines, les trois tableaux qui existent. Il y en a 5 au total avec simple homme, le simple dame, le double homme et le double dame et le double mixte. Donc voilà, 5 tableaux badminton.
Mm-hmm.
Moi, je fais des 3 tableaux, mais pour les Jeux paralympiques, c'est seulement en simple que je vise une qualification.
Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Alors, expliquez-nous un peu. C'est comme Roland-Garros, c'est plusieurs tours à passer. C'est un tournoi comme Roland-Garros?
Alors, tous ces tournois-là ont eu lieu de mars 2023 à mars 2024. Donc là, je suis en attente de qui est qualifié sur les doubles et les simples.
Oui.
Pour après savoir combien de places il reste en fonction de ma catégorie. Et c'est là, tout dépend d'une commission. Donc, ça ne se joue plus, ça se joue plus entre mes mains. C'est vraiment une commission qui doit définir les places restantes en fonction de quotas continentaux, hommes-femmes. Donc voilà, il y a énormément de critères avec des complexités qui fait qu'aujourd'hui, je ne sais pas vraiment si je vais me qualifier, mais c'est quand même bien parti.
C'est
mais
bien
voilà,
parti. Ça... C'est le rêve, ça, complètement. Hein. C'est le rêve.
C'est mon rêve que je me suis fixé il y a quand même 10 ans, en me lançant le rêve de Jeux paralympiques. Et je ne savais pas trop dans quoi je m'embarquais réellement. Il faut vraiment l'avouer.
Ouais, vous ne vous y attendiez pas au moment où vous vous mettez au badminton? Vous ne vous y attendiez pas à aller jusqu'à ce niveau-là?
Déjà, d'arriver à ce niveau-là, non. Après, c'est un petit peu dans tout ce que j'essaie d'entreprendre. C'est-à-dire que j'aime entreprendre des choses, j'aime me lancer des défis et d'aller voir un peu jusqu'où je peux aller.
Oui.
Là, je m'étais quand même lancé un gros défi de faire les Jeux paralympiques. Je ne savais pas dans quel sport. Et ça faisait seulement 2 ans que je m'étais mis au badminton en compétition. Donc à l'âge de 30 ans, je me lance dans le para-badminton. Et dès ma première année, en fait, je suis champion de France de ma catégorie, donc la catégorie SL3, qui a la particularité au badminton dans ma catégorie, c'est de jouer sur un demi-terrain en simple. Vu le fort handicap qu'on peut avoir sur la jambe, mais ça se joue debout. Et ensuite, voilà, 2016, donc un an après, on est champion d'Europe en double.
Oui.
Et là, en fait, c'est là où je vois qu'il y a le potentiel, il faut travailler, et puis on va se lancer sur cette qualif pour Tokyo, tout d'abord, en 2020.
Oui.
Donc, je prépare ça pendant 5 ans, parce qu'au final de 2016, on a eu une année de plus avec le Covid, donc ça fait jusqu'à 2021.
Mm-hmm.
Et sur ces 5 ans, j'arrive exactement 7e mondial, exactement la même position que pour Paris. Mais malheureusement, ils ont sélectionné seulement les 6 meilleurs mondiaux pour aller à Tokyo. Donc, je ne suis pas parti pour ce wagon pour Tokyo. Mais j'arrive à rebondir en me retrouvant des forces et en me disant que le plus beau reste à venir, que les Jeux à Paris, ça va être la plus grande fête pour moi, pour ma famille, pour les Français, et que je veux vivre ce rêve-là. Et c'est à ce moment-là que, du coup, voilà, j'espère que dans 3 semaines, j'aurai ce ticket pour vivre réellement ce rêve.
Ce qui est quand même assez génial, c'est que c'est très physique, hein. C'est très physique, le badminton. Et donc, c'est très physique, quoi. Donc,
tout de suite ce qui m'a plu, en fait, sur le badminton. C'est cette dimension à la fois physique, donc cardio,
oui.
Et en même temps, cette niveau, en fait, de tactique et de technique qu'il faut. Donc, c'est vraiment combler ces 3 aspects du jeu, à la fois très tactique pour faire déjouer son adversaire, un peu comme aux échecs, mmh. anticiper les coups d'après et essayer de malmener son adversaire, en fait, de lui poser des problèmes.
Oui.
Et après, il y a cette dimension physique, parce que si on a un adversaire en face qui trouve des solutions aux problèmes posés, du coup, l'échange fait que ça dure très longtemps et ça reste très cardio, mais à la fois tellement ludique que c'est aussi pour ça que ce sport est aussi plébiscité autant par les jeunes et tellement accessible au début. C'est-à-dire que moi, le badminton, j'ai commencé comme tout le monde, je pense, à l'école, mais j'en faisais dans mon jardin avec mon frère à faire des parties jusqu'à pas d'heure, jusqu'à temps que la nuit tombe et que du coup, là, on ne voyait plus le volant. Mais ça restait un sport amateur, sans de la compétition et vraiment loisir.
Loisir.
C'est ça, très loisir. Après, il y a eu cette dimension où je suis rentré dans un gymnase à l'âge de 28 ans. Et là, je tombe littéralement amoureux, mais encore plus de ce sport. J'ai aimé ce sport, c'est pour ça que j'ai aimé ce sport de, qu'on dit un peu de plage, parce que c'est ce que je faisais du badminton de plage. Mais quand je suis rentré dans un gymnase et que là, j'ai vu des joueurs de badminton, des badistes, je me suis dit qu'en fait, c'est un tout autre sport et que cette dimension physique, tactique et technique,
oui.
fait qu'aujourd'hui, on a toujours quelque chose à apprendre. Après encore 10 ans, on est toujours dans le perfectionnement du geste, de poser des problèmes à son adversaire. Donc ouais, je suis encore piqué et amoureux.
Piqué et amoureux. Donc la suite des événements, c'est bientôt aux Jeux de Paris. Et moi, je suis sûr que vous allez y arriver. J'en suis certain. Vous êtes 7e. Il faut que vous soyez combien pour être qualifié? Vous me l'avez peut-être dit, ça m'a échappé.
Là, c'est sûr qu'ils prennent. Je sais qu'il y en a 7 déjà qualifiés. Et après, potentiellement, je crois qu'il y aura 2 joueurs dans ma catégorie qui vont être qualifiés. Un quota océanien qui va être sûr d'être pris. Et puis moi, j'espère glaner la 9e place pour ces Jeux à Paris.
Alors, il y a un autre défi dont on doit parler et que vous êtes oui. fixé, c'est celui de fonder une famille. Je crois que de ce côté-là aussi, ça n'est pas facile.
C'est vrai qu'à l'âge de 30 ans, j'ai un peu tout bouleversé dans ma vie, dans le sens où je me lance dans le para-badminton. Mais surtout aussi, je rencontre la mère de mes enfants
oui.
aujourd'hui. Et on a ce projet de faire des enfants. Mais ça ne se passe pas comme on voudrait, dans le sens où, on le sait, voilà, moi, avec la chimio que j'ai pu avoir jeune,
oui, oui.
Ça a laissé aussi des traces sur ma... sur ma fécondité, pas ma fécondité, mais sur la qualité, en fait, de mes spermatozoïdes. Et donc, du coup, avec ma compagne qui avait aussi des problèmes pour aussi avoir des enfants dans son passé, on a fait qu'on est passé directement par la caisse PMA assez rapidement, dans notre projet de vie et dans notre projet d'avoir des enfants. Et ça va mettre 3 ans. 3 ans avec quand même 3 FIV, avec de nombreuses fausses couches, mais la finalité est belle. Avec beaucoup de persévérance, on y arrivait, on y est tous arrivés, j'ai envie de dire, le corps médical et nous, mm-hmm. à avoir aujourd'hui des jumeaux. Qui
oui,
et
puis les
doctios
aussi, hein, qu'on poussait aussi.
Oui, mais tout le monde s'est battu, en fait. C'est
tout
ça.
Le monde s'est battu,
c'est
là.
C'est beau, à la fin. Ouais. Tout le monde s'est battu, tout le monde a persévéré, et aujourd'hui, ils ont 6 ans, j'ai une fille et un garçon, Mila et Soa, et voilà, c'est la, les belles leçons qu'il faut tirer, de jamais les... En tout cas, ce que j'essaie de transmettre même à eux, c'est de jamais lâcher l'affaire, de toujours persévérer. C'est ce qu'il y a que... Il n'y a que ceux qui persévèrent qui peuvent dire à la fin qu'ils ont réussi.
Et vous avez réussi, mon cher. Hein. Donc
c'est un travail collectif. Là.
Donc là, c'est un travail collectif et c'est l'aboutissement quand même d'une volonté hein, qui est la vôtre, Mathieu. Le livre sort donc dans les jours qui viennent. Hein. Il sort le 24 avril.
C'est ça, il sort le 24 avril, donc c'est ça, sont dans la collection Témoignages de Cité Édition.
Oui.
Ouais, c'est un livre de 240 pages, plein format, et puis ouais, c'est vraiment, vraiment, comme je disais au tout début, l'aboutissement de mon rêve, en fait. C'est de mettre sur papier et par tous ces mots, par quoi je suis passé, par toute cette compréhension et toute cette... toute cette analyse, en fait, vraiment, que j'ai de l'âge de mes 17 ans jusqu'à maintenant, en fait. Mmh. Et c'est vraiment ce que j'expliquais, c'était que je suis parti à la base pour écrire ce rêve de jeu paralympique, le jeu JEUX. Et la finalité, en fait, c'est qu'on arrive à un rêve de jeu, un jeu JE, dans le sens où... tout ce chemin pour m'amener à un projet, un si grand projet des Jeux Paralympiques, m'a fait tellement connaître sur moi. Et aujourd'hui, en fait, je suis tellement content. C'est que j'ai appris d'une à m'aimer, à savoir où sont mes limites. J'ai appris aujourd'hui aussi à transmettre et à comprendre qu'au final, ma singularité, ça a été ma plus grande force. Et que... J'encourage en tout cas tout le monde aujourd'hui à découvrir sa singularité, à l'accepter, à la transformer et à la fin de rêver grâce à cette singularité.
Très bien. Et vous dites que vous êtes arrivé jusque-là grâce à la maladie et au handicap qui ont décuplé votre envie de vivre. Hein. Ce message, il est très important pour celles et ceux qui... nous écoutent ce soir et qui sont nombreux et nombreux hein, chaque soir sur cette libre antenne et qui prennent sans doute conscience encore ce soir avec votre témoignage qui s'ajoute à de nombreux hein, témoignages de personnes porteuses de handicap combien cette épreuve de la maladie et du handicap peuvent être des épreuves fondatrices dans la vie. Comme ça l'a été pour vous, Mathieu. Merci en tout cas pour votre témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Bon vent à vous. Et puis on se retrouve pour les Jeux de Paris, là, dans quelques semaines. Les Jeux Paralympiques, parce que vous allez défendre nos couleurs, mon cher Mathieu, j'en suis sûr.
Eh bien, merci. Et puis je donne vraiment rendez-vous à tous les Français, quand même. Alors, plus ceux qui sont sur Paris, quand même. Mais à tout le monde de venir nous supporter dans les stades. Ça commence le 28 août, les Jeux Paralympiques. Mes épreuves, ça sera le 29. Mmh. Donc voilà, ça se passera à Porte de la Chapelle à l'Adidas Arena.
Oui, puis pour tous celles voilà. Et ceux qui ne peuvent pas venir à Paris, France Télévisions retransmettra les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Et ça, c'est une vraie chance que ces Jeux Olympiques et Paralympiques soient diffusés dans leur globalité hein, par le groupe France Télévisions. Donc, c'est super. Et puis, bien évidemment, on en parlera, nous, sur Europe 1, sur Canal, sur CNews. Ces Jeux vont être relayés car c'est la grande fête du sport et pour tout le monde. Chers amis, bonne chance, hein, mon cher Mathieu.
C'est très gentil, merci beaucoup.
Bonne fin de soirée, au revoir.
Vous aussi, au revoir.
Et une bise aux jumeaux.
Merci.
Salut.